Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Lisons plusieurs textes bibliques. Prédication portera sur tout le livre de Malachie. Et donc, nous allons lire plusieurs passages dans ce livre. Et nous commençons au chapitre 1, les trois premiers versets. Menace, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob, oracle de l'Éternel, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une désolation, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Dans le même chapitre, versets 6 et 7, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom, qui dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Maintenant, chapitre 2, les versets 10 à 14. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères? Judas a trahi et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est marié à la fille d'un dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Voici, en second lieu, ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et maintenant au chapitre 3, les trois premiers versets. Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Puis les versets 7 et 8 du même chapitre. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Et maintenant les versets 17 à 24, la fin de Malachie. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et nous lisons deux courts textes dans les évangiles par rapport à cette prophétie concernant Élie. D'abord Luc 1, versets 13 à 17. C'est l'ange qui parle au vieux Zacharie qui n'a pas d'enfant. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et maintenant, voyons le témoignage que Jésus-Christ rend à Jean-Baptiste dans Matthieu 11, les versets 13 à 15. C'est Jésus-Christ qui parle. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. »
Eh bien, je vous souhaite une année bénie dans le Seigneur. Que le Seigneur vous donne cette grâce de voir cette année 2021 comme une année de grâce qu'il nous donne à vivre. Malgré tout ce qui peut arriver, le Seigneur est là présent, plein de grâce. Sans feu, il est impossible de purifier l'or. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre la parole de Dieu. Donc que l'Esprit purifie nos cœurs ce matin, c'est vraiment ma prière. Et dans notre série sur les 12 prophètes, nous arrivons au dernier prophète, écrivain de l'Ancien Testament. Après Joseph, le dernier patriarche, il y a eu 400 ans de silence avant la délivrance. Après Joseph, le dernier patriarche, il y a eu 400 ans de silence avant la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Et après Malachie, le dernier prophète, il y a aussi 400 ans de silence avant la délivrance de l'esclavage du péché. Après Malachie, le dernier prophète, il y a aussi 400 ans de silence avant la délivrance de l'esclavage du péché. Alors souvent, les dernières paroles de quelqu'un avant un long temps de silence résonnent encore longtemps et prennent un accent tout à fait particulier. Dieu parle une dernière fois à son peuple avant un long silence qui prendra fin en fait à la première venue de Jésus-Christ sur terre. On pourrait dire qu'on est dans une période un peu semblable à ce temps de silence face à la deuxième venue de Jésus-Christ sur terre, son avènement glorieux au où le jour de l'Éternel ultime sera pleinement manifesté. Alors, vous vous souvenez peut-être que dans cette série sur les 12 prophètes, eh bien, nous avons plusieurs fois parlé du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, que trois lettres que nous trouvons dans cette expression nous permettent de nous rappeler de trois éléments fondamentaux de ce jour de l'Éternel. J, L, R. Jour de l'Éternel. J, L, R, donc jugement, libération et rédemption. Trois éléments clés pour comprendre le jour de l'Éternel. Et nous avons pu comprendre que le jour de l'Éternel avait des prototypes dans l'Ancien Testament. Hein, par exemple, le déluge était un prototype du jour de l'Éternel ou la sortie d'Égypte. Et nous avons compris aussi que dans le Nouveau Testament, il y a au moins deux parties du jour de l'Éternel. La première partie qui est derrière nous, le jour où Jésus-Christ a pris sur lui le jugement de Dieu pour la libération de son peuple et sa restauration spirituelle. Et il reste encore le jour ultime de l'Éternel qui est devant nous. Alors ces différentes facettes du jour de l'Éternel, bien souvent non différenciées par les prophètes qui parlent simplement du jour, nous mettent parfois dans la confusion. Est-ce que ce qu'ils disent est déjà passé ou est-ce que ça arrivera encore? Et dans Malachie, la première venue de Christ précédée d'un messager est clairement annoncée comme étant le jour de sa venue dans le chapitre 3 au verset 2. Et le jugement des méchants repentants a effectivement été réalisé à la croix. Mais les versets 19 à 22 du chapitre 3 ou du chapitre 4 verset 1 à 4, puisque certaines Bibles ont les six derniers versets dans un autre chapitre, eh bien, nous font aussi penser que le jour de l'Éternel ultime avec le jugement des méchants non repentants est encore devant nous. On peut dire que la prophétie est pleinement accomplie en Christ lors de sa première venue. La prophétie est pleinement accomplie en Christ lors de sa première venue et est déjà réelle spirituellement, mais sera pleinement manifestée lors de son avènement au jour de l'Éternel ultime qui est devant nous. Donc c'est pleinement accompli, tout est accompli, Jésus l'a dit sur la croix, tétélestai, tout est accompli, mais ce sera pleinement manifesté lors du jour de l'Éternel ultime. Alors concernant les explications supplémentaires sur ce jour de l'Éternel, alors je vous renvoie à la première prédication d'introduction à ces 12 prophètes, où nous avions pris du temps pour en parler, et aussi lorsque nous avions parlé particulièrement du prophète Sophonie. Alors revenons à Malachie. Malachie qui transmet les dernières paroles de l'Éternel avant ce long silence. Il commence par parler de l'amour de Dieu envers son peuple. Mais cet amour est mis en doute. Il parle de l'honneur de Dieu, mais le respect est absent. Il parle de l'alliance, mais l'alliance est profanée. Pourtant, Dieu annonce le messager d'alliance qui est le Seigneur lui-même, précédé d'un précurseur qui appelle à revenir à l'Éternel. En fait, je viens de vous donner le résumé du livre de Malachie, qui signifie d'ailleurs le messager. Ce prophète a vécu après la construction du temple, après le retour de Babylone, qui s'est fait du temps de Zorobabel et Esdras. Malachie a sûrement vécu d'ailleurs dans la période de Néhémie et il semble, enfin on peut en tout cas penser qu'il a prophétisé dans la période où Néhémie était retourné en Perse. En tout cas, les péchés que Néhémie décrit dans son livre, eh bien sont des péchés que Malachie dénonce justement dans son livre. Alors pour se remettre dans le contexte, les prophètes Zacharie et Agée avaient promis des grandes choses en disant que le temple serait plus glorieux qu'avant. Souvenez, on en avait parlé quand on a parlé de Zacharie et d'Agée. Et le peuple est là, le temple est reconstruit et la gloire de Dieu n'est même pas descendue sur le temple comme du temps de Salomon avec la Shekinah. Et le temps passe. Et il semble même évident que la gloire promise n'est pas à l'ordre du jour. Alors poussé par sa présomptueuse satisfaction en soi-même et par le mécontentement amer de la position inférieure où Dieu le place, le peuple devient cynique. Cynique, ça veut dire quoi être cynique? Cynique, c'est en fait exprimer des sentiments ou des opinions choquantes, ouvertement provocatrices. C'est ça être cynique. Et nous avons un exemple très rapidement au début du livre où on voit le peuple qui dit « Mais en quoi nous as-tu aimés ?» Puisque Dieu dit au début « Je vous ai aimés ». Ce peuple est malhonnête, ingrat, infidèle, pratiquant le favoritisme, l'adultère, la sorcellerie, les faux serments, l'oppression des faibles, le tort des immigrants, ne craignant pas Dieu et retenant tout investissement pour Dieu. Voilà la situation dans laquelle est Malachie. Nous avons aussi reçu des promesses pour nous ici en 2021. Et l'attente de ce jour glorieux de Christ semble long. Notre flamme peut trembloter ou même dangereusement s'approcher du cynisme et perdre contact avec Dieu. Pierre en parle dans son épître, hein, lorsqu'il dit dans 2 Pierre 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Un peu plus loin, il est dit « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Le cynisme envers Dieu est un péché duquel nous devons nous repentir. Le cynisme envers Dieu est un péché duquel nous devons nous repentir si nous voulons avoir une relation avec le Tout-Puissant. En fait, le cynique ne doit pas s'étonner de ne pas avoir de relation avec Dieu. Celui qui est cynique ne doit pas s'étonner de ne pas avoir de relation avec Dieu. Il faut s'en repentir pour retrouver cette relation avec le Tout-Puissant. Voilà, le contexte de Malachie qui ressemble bien au nôtre, et comme c'est un survol du livre, je vais maintenant aborder de manière concise 5 sujets qui me semblent essentiels dans ce livre. Évidemment, même en lisant que quelques passages qu'on a lus tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'était extrêmement riche. Mais je toucherai 5 sujets, et les voici. Le premier, l'amour de Dieu mis en doute. Le deuxième, le respect pour Dieu absent. Troisièmement, l'alliance établie par Dieu méprisée. Alors ces 3 premiers sujets sont, c'est vrai, plutôt négatifs dans un sens, c'est comme le prophète les amène d'ailleurs. Et ensuite, on arrive à l'appel à la repentance et le lien avec le Nouveau Testament. Voici les éléments que nous allons voir ensemble. Et je suis conscient qu'on va voir bien des choses qui sont en lien avec l'exhortation. Comme le livre de Malachie est un livre qui nous exhorte. Et nous devons toujours avoir en tête que tout cela, nous le vivons parce que nous croyons en l'Évangile. Malachie n'avait pas la connaissance que nous avons actuellement de l'Évangile. Et nous l'avons. Et nous l'avons en arrière-plan dans tout ce que nous allons voir ici aussi dans le livre de Malachie, qui met son amour en nous, qui nous inspire le respect et qui nous pousse à la fidélité à l'alliance et la joie du pardon. Alors, l'amour de Dieu mis en doute. Alors voici les premières paroles de Dieu transmises par Malachie, Malachie 1, verset 2, hein, c'est bien dans vos Bibles et de regarder, toujours vérifier ce que je raconte évidemment. Et voilà ces premières paroles qui disent « Je vous ai aimé, dit l'Éternel ». C'est beau, non ?« Je vous ai aimé, dit l'Éternel ». Mais vous dites « En quoi nous as-tu aimé ?» Oh, vous savez, les juifs pieux de l'époque n'auraient sûrement pas dit ça publiquement, mais Dieu révèle les cœurs. D'ailleurs, combien de personnes venant chaque dimanche à l'église, cherchant à bien penser, à bien présenter devant tout le monde, combien de personnes ne pensent pas parfois « En quoi Dieu m'aime-t-il ? » La réponse de Dieu ici est courte et percutante. Il dit ceci, « Ésaü n'est-il pas ton frère, Jacob ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? Oracle de l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Or, un texte que Paul reprend pour parler de l'élection inconditionnelle de Dieu qui choisit qui il aime indépendamment des œuvres de la personne ou du peuple. Il écrit dans Romains 9, 10 à 13, hein, « Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres mais de celui qui appelle, il dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune selon qu'il est écrit. » Et là, c'est la citation de Malachie, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. »
Dieu a choisi Israël pour l'aimer d'une façon dont il n'avait jamais aimé d'autres nations. Il l'a délivré de l'esclavage de l'Égypte. Il l'a délivré à maintes reprises de ses oppresseurs. On le voit dans le livre des Juges, par exemple. Et lorsque Dieu punissait son peuple, c'était pour le ramener à la repentance et lui donner des bénédictions. Dieu avait ramené le peuple de Babylone. C'était la situation dans laquelle ils étaient. Le temple était reconstruit. Les murailles de Jérusalem étaient là. Et le peuple ne voyait pas l'amour de Dieu. Pourtant, il pouvait constater que Édom était détruite et ne se relèverait plus. Alors, on ne va pas détailler toute l'explication de ce texte. On l'a fait quand on avait étudié Romains 9. Mais le chrétien est aussi le sujet d'un amour souverainement choisi. Il est un grand privilégié. Je dis, oh, mais quel privilège aurais-je alors? Et c'est là que Dieu nous amène bien avant la fondation du monde, où il nous rappelle notre élection dans l'alliance de son amour. Dieu a choisi de nous sauver avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés de toujours. C'est un amour qui n'est pas, tout à coup il est arrivé comme ça, puis il peut repartir. Non. Éphésiens 1, verset 4 dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Et un vieux pasteur a dit un jour à John Benton ceci, que l'écrasante majorité des problèmes spirituels chez les chrétiens viennent du fait que beaucoup ne sont pas sûrs que Dieu les aime. L'écrasante majorité des problèmes spirituels chez les chrétiens viennent du fait que beaucoup ne sont pas sûrs que Dieu les aime. Et voici ce que dit Charles Spurgeon, je le cite. « J'ai connu une brave femme qui faisait l'objet de nombreux doutes. Et lorsque je parvins à la racine de son doute, je vis ceci. Elle savait qu'elle aimait Christ, mais elle craignait qu'il ne l'aimait pas. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que son amour pour Christ était un fruit de l'amour de Christ pour elle, qui en était la racine. Si vous aimez Dieu, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour vous, parce que le sentiment de l'amour pour Dieu ne peut pas naître par nous-mêmes. » Alors j'espère que tous ceux ici qui sont dans la foi, dans le Seigneur, hein, mes chers frères et sœurs, eh bien, vous soyez saisis par l'amour de Dieu pour nous. Et que ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre de Christ, nos amis, hein, puissent être touchés par cet amour. Un amour qui est invariable, qui vient de loin, de l'infini en fait. Or là on pourrait me dire, mais alors Dieu aime-t-il les non-chrétiens? Mais bien sûr. Le fait que nous vivions sur une terre habitable, avec toutes les ressources dont nous avons besoin, est une preuve de l'amour de Dieu pour l'homme. De plus, Jésus est venu payer le prix du péché de personne alors qu'il n'était pas encore chrétienne. Cet amour se manifeste par son appel à venir à lui, par la repentance et la foi pour être sauvé. Vous connaissez bien Jean 3, 16. Ça vous dit quelque chose? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, allez-vous pécher contre l'amour de Dieu en le méprisant? Le premier sujet de Malachie parlait de l'amour de Dieu mis en doute, avec cynisme. Alors j'espère que j'ai pu un petit peu nous aider à réfléchir et nous faire entrer dans cette réflexion que le cynisme est terrible et nous écarte de cet amour de Dieu, qui est si majestueux, qui nous rassure, parce que c'est un amour qui est solide, stable. Passons au deuxième sujet traité par Malachie. Le respect pour Dieu absent. Alors pour bien saisir ce sujet, supposons que chacun se pose ou réponde à cette question. Est-ce que mon amour pour Dieu est autant grand, voire plus profond que lorsqu'il m'a sauvé? Maintenant, là. Ou a-t-il diminué? Et la deuxième situation est celle que Malachie va aborder. Et voici ce que dit l'Éternel par la plume de Malachie, dans Malachie 1, verset 6. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Si l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui dédaignez mon nom, vous dites, en quoi vous nous dédaignez ton nom? Alors juste pour bien comprendre ce qui se passe ici, deux choses sont importantes à saisir. La première, c'est quelle est l'attitude que nous devrions avoir face à un père, selon la Bible. Et deuxièmement, qui est concerné, puisqu'on parle de sacrificateur ici. Donc premièrement, l'attitude face à un père. Dans notre société, que je qualifierais quand même de très féminisée, le père est jaugé à l'amour et l'affection qu'il peut donner. C'est une bonne chose d'avoir de l'amour et de l'affection. Mais ce ne sont pas les caractéristiques principales d'un père, selon la Bible. Un père est un protecteur. Un père est un protecteur, un pourvoyeur, un guide, un berger qui prend des décisions concertées avec son épouse. Une figure d'autorité à respecter hautement dans la confiance et l'amour. Nous lui devons soumission comme lui la doit à Dieu. C'est la première étape d'apprentissage du respect envers Dieu, en fait. C'est comme ça que la Bible voit notre attitude que nous devons avoir face à notre Père. Un Père est un protecteur, un pourvoyeur, un guide, un berger qui prend des décisions concertées avec son épouse, une figure d'autorité à respecter hautement dans la confiance et l'amour. Nous lui devons soumission comme lui la loi à Dieu. Et c'est la première étape pour apprendre le respect vis-à-vis de Dieu. Alors si le respect et l'honneur ne viennent pas à notre pensée lorsque nous parlons de notre attitude envers notre Père, ben nous ne comprenons pas ce que dit Michée ici dans ce texte. Puisqu'il est parlé ici de cette notion d'honneur, de respect. Deuxièmement, qui est concerné? Alors comme il est question de sacrificateur, on pourrait se demander, mais qui est concerné? Ici, moi je ne suis pas sacrificateur. Enfin, tu l'es? Ah, tu verras. Le sacrificateur était des médiateurs entre Dieu et son peuple. Dieu avait mis à part la tribu de Lévi pour cette tâche. On le revoit d'ailleurs dans le livre de Malachie, on retrouve Lévi. Et il l'accomplissait en offrant des sacrifices pour le péché. Alors évidemment, plus personne actuellement n'offre légitimement de sacrifices pour les péchés. Parce que Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes, en tant que souverain sacrificateur et sacrifice lui-même. Donc de ce côté-là, non, il n'y a plus de sacrificateur. C'est vrai. Par contre, tous les chrétiens sont considérés comme étant un sacerdoce royal, selon 1 Pierre 2:9, et à la responsabilité de faire connaître la vérité, ce que les sacrificateurs devaient aussi faire. Et les anciens, les responsables d'activité, les parents, ont la même responsabilité de transmettre la vérité que tous les chrétiens et d'être des guides et des modèles. Voilà, mais nous comprenons donc maintenant que tout chrétien est concerné par le passage de Malachie et particulièrement les responsables. Le constat est flagrant et terrible. Il n'y a pas de respect ici. Le nom de l'Éternel est dédaigné du temps de Malachie. En fait, je vais vous donner quelques éléments de qu'est-ce qui se passait dans les cultes pour se rendre compte qu'il y avait ce dédain. La première chose, le culte offert à Dieu est sans valeur. Sans valeur. En fait, ils offrent à Dieu ce dont ils veulent se débarrasser. Des bêtes aveugles, boiteuses, malades. Voilà ce qu'ils viennent offrir à Dieu. Mais offrir quelque chose à Dieu implique quelque chose qui nous coûte. Ce n'est pas notre poubelle qu'on vient apporter à Dieu, à moins qu'on veuille le mépriser. Et les sacrificateurs du temps de Malachie, d'ailleurs, auraient dû refuser ces sacrifices sans valeur. Deuxièmement, le culte est vécu de manière irréfléchie. Les gens ne réfléchissent même pas. Malachie dit de réfléchir juste une minute. Si vous donniez un plat de viande puante rempli d'asticots au ministre d'État, comment réagirait-il? Franchement. Allez, réfléchissez à un ministre, là. Vous avez un ministre de vos têtes? Vous allez lui apporter un plat de viande puant rempli d'asticots. Vous arrivez à le voir, là? Sentir? Bon. Comment réagirait-il? Réfléchissez même pas. Juste 2-3 petites questions. Est-ce que vous arrivez en retard au travail? Ah ben non, bien sûr, évidemment. Est-ce que vous êtes absent des séances quand votre chef met des séances? Ben non, ça se fait pas, vous êtes d'accord. Ou bien, est-ce que vous êtes simplement spectateur du travail des autres collègues, et puis peut-être ce que vous faites, c'est juste de les critiquer? Mais non! On ne pourrait pas le faire longtemps, c'est évident.
Vous voyez où je veux en venir. Ne vivons pas notre foi de manière irréfléchie. Que Dieu nous garde de vivre cela de manière irréfléchie. Et qu'on peut se poser la question, suis-je un chrétien avant d'être un employé ou un employé avant d'être un chrétien? Qu'est-ce qui va durer le plus longtemps? Le culte du temps de Malachie est vécu de manière irréfléchie.
Ensuite, le culte est vécu comme un fardeau pénible.
Regardez chapitre 1, verset 13, il est dit là,
vous dites, quelle fatigue!
Et voilà que l'on préfère se reposer le dimanche matin. Le culte est si fatigant.
Ou encore, le culte est vécu de façon hypocrite. Voilà qu'un Israélite a un beau mouton dans son troupeau,
mais il donne au Seigneur une bête mutilée. Verset 14, vous pouvez le voir.
En se disant, en plus, qu'il fait une bonne action.
Cela fait tellement penser aussi à Ananias et Saphira qui
font croire qu'ils donnent tout afin que tous voient leur abnégation et leur grande générosité.
Pour aller méditer acte 5, si jamais.
Mais vous savez, celui qui ne comprend ni l'amour de Dieu, ni sa grandeur, glissera rapidement sur cette pente qui mène à l'absence de respect pour Dieu. Lorsqu'on oublie son amour et sa grandeur, nous allons glisser très rapidement sur cette pente de l'irrespect.
Et nous allons peut-être parfois même rester silencieux
pour faire croire que nous sommes pleins de respect. Alors qu'en fait, le fait de se taire manifeste de la stérilité, de l'austérité, de la paresse.
Vous savez, cela s'entend lors du temps de prière.
On doit se réveiller, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on veut vivre réellement? Et être saisi par l'amour de Dieu, par sa grandeur, pour courir très loin de cette pente qui nous amène à l'irrespect, en fait, comme Malachie le souligne ici. Rappelons-nous l'œuvre de l'amour de Christ, l'immensité de son action. Et quand à un moment où on peut prier, mais ça doit sortir de notre cœur, c'est devant Dieu qu'on est.
Mais ce n'est pas terminé. Malachie arrive à un point fondamental, la compréhension de l'alliance et le reflet de cette alliance dans le mariage. Troisième point, l'alliance établie par Dieu méprisée.
Et Malachie va dénoncer deux choses. Le mariage avec des personnes qui adorent un Dieu étranger et l'adultère et les divorces.
Alors premièrement, voici ce que Dieu dit par Malachie pour la première partie. Malachie 2:10, regardez avec moi.
N'avez-vous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés?
Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres et profanons l'alliance de nos pères? Judas a trahi et... une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est marié à la jeune fille d'un dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui apporte une offrande.
Alors, il n'est pas question ici d'être contre le mariage de personnes qui ne sont pas du même pays.
Pas parce qu'il est étranger, dans le sens qu'on n'est pas du même pays que ça.
Non, mais qu'ils ne sont pas du même Dieu.
Ça, c'est la différence. Ils ne sont pas du même Dieu.
C'est une horreur aux yeux de l'Éternel, c'est écrit ici. La mixité spirituelle n'existe pas aux yeux de Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant?
Est-il écrit dans 2 Corinthiens 6, 15.
Il ne s'agit pas de savoir si l'autre est sympa, serviable ou s'il nous plaît. Là n'est pas la question.
Mais s'il a le même esprit.
Alors j'encourage vraiment les jeunes, dès que vous êtes capables de comprendre cela, de prendre la résolution de ne jamais se marier avec un non-croyant. Quelqu'un en qui le Saint-Esprit n'habite pas et qui ne manifeste pas visiblement des fruits de la transformation d'une vie de repentance et de foi. C'est ça, parce que c'est une horreur spirituelle aux yeux de l'Éternel. J'encourage vraiment, et plusieurs personnes, j'en fais partie d'ailleurs, très jeunes, c'est quelque chose qui m'a protégé.
Je me souviens encore très bien à l'âge de... Pas pour que je revienne en arrière, quel âge j'avais. Je devais avoir une dizaine d'années. 10 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Je me rappelle très bien encore où c'était et tout. Où ça m'était venu, cette notion de me dire. J'avais une attirance comme ça, de me dire. Non,
il n'en est pas question.
Parce que j'avais
était résolu, par la grâce de Dieu et par l'enseignement que j'ai reçu, de ne pas me marier et de ne pas entrer du tout dans une relation qui peut amener au mariage avec une personne qui n'est pas dans la foi. Dieu a été clair avec le peuple et il a donné les raisons ici. Et c'est écrit dans Deutéronome 7, versets 3 et 4, il est dit « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. » Vous savez, il est impossible de vivre une foi consacrée à Dieu, vraiment consacrée à Dieu, si nous nous marions avec une personne qui n'est pas habitée par le même Saint-Esprit. Parce que le mariage n'est pas une colocation. Ce n'est pas une colocation. C'est une union physique, morale, spirituelle et de volonté. En fait, en un mot, une union de cœur. Alors évidemment, il peut arriver que l'on vient au Seigneur par la suite et que nous sommes dans une situation telle que celle-là. On ne parle pas de cela ici dans Malachie. On parle de personnes qui ont délibérément choisi de se mettre avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Deuxième élément, Malachie, dans son deuxième aspect, souligne l'importance du mariage pour Dieu. D'ailleurs, ce sujet pourrait être un point de départ pour connaître notre propre état spirituel. En fait, des fois on se demande comment est-ce que je peux savoir où j'en suis spirituellement? Eh bien, pour ceux qui sont mariés, je vais vous donner une question que vous pouvez prendre. Comment t'entends-tu avec ton épouse ou avec ton mari? Et vous saurez dans quel état spirituel vous êtes. Voici ce que dit Malachie. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et un peu plus loin, prenez donc garde en votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. J'aime bien ce que dit ici John Benton dans son commentaire, et ça me marque. Cette exhortation, enfin je dis j'aime bien, ça me marque plutôt que j'aime bien. Cette exhortation répétée nous enseigne une leçon très claire. Une cause fréquente de stérilité spirituelle vient de pensées intimes qui portent atteinte à l'intégrité du mariage. Une cause fréquente de stérilité spirituelle vient de pensées intimes qui portent atteinte à l'intégrité du mariage. Voilà pourquoi il est si important de veiller à ses pensées intimes. Voilà pourquoi il est si important aussi d'évacuer toute irritation, de ne pas se coucher sur sa colère. La table doit être rase tous les soirs. Et que nous cherchons à améliorer notre relation d'amour dans le couple. Il est bon et important de stimuler cet amour dans le couple. Thomas Watson écrivait ceci. Un homme ne se garde pas chaste en ayant une femme, mais en aimant sa femme. Un homme ne se garde pas chaste en ayant une femme, mais en aimant sa femme. Et quelle joie de voir, enfin moi j'aime beaucoup voir des personnes mariées depuis de nombreuses années qui s'aiment tendrement. C'est tellement beau. Il ne faut pas que ça soit juste beau, il faut qu'on le vive et qu'on s'en réjouisse. Et si vous le voyez, ben encouragez ces gens, c'est une bonne chose. Et vivez-le aussi par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments de trouble dans nos vies, c'est vrai, des moments de houle. On veut toujours tendre à cette intimité et à cet amour dans le cadre du couple. Alors, si tu es célibataire, tu vas dire, ouais, bon, d'accord, mais moi, ça ne me concerne pas. Le mariage est peut-être devant. Donc, pour que l'on vive cela après, il faut que ça soit imprimé maintenant. Ou bien, nous avons aussi, de toute façon, une relation forte et intime avec notre Seigneur, dans lequel on a aussi cette notion très forte de veiller à nos pensées, d'évacuer toute irritation, de ne pas coucher sur notre colère, enfin, etc. La même chose. Alors prions pour les couples. Prions que les mariages chrétiens manifestent cet amour l'un pour l'autre. C'est tellement important. C'est tellement important que l'ennemi le sait et attaque très précisément les couples, qui sont en fait les couples unis, on pourrait dire, ça représente la force de l'Église. Et les célibataires qui sont unis à Christ, et qui ont la même notion, sont également ces forces dans l'Église. Prenez donc garde en votre esprit, hein, ça vous pouvez le voir, verset 15, dernière partie. Prenez donc garde en votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Alors si Malachie est appelé à souligner toutes ces choses, parfois négatif, c'est vrai, et difficile. C'est pour nous appeler à la repentance, pour qu'il y ait une transformation, hein, et d'entrer dans ce cheminement que Dieu désire. Et c'est ce que nous allons trouver au verset 7 du chapitre 3. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. » On a déjà tout un panel qu'on a vu jusque-là. Et voici ce qu'il dit. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » C'est magnifique ce qu'il est en train de dire cela. Hein? « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ?« Revenez à moi, revenez à l'Éternel. » C'est l'appel pressant du Sauveur qui a les moyens de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver, de nous libérer, de nous réveiller. C'est l'appel pressant encore aujourd'hui. Revenez à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jamais on sera repoussé par le Seigneur. Jamais. C'est tellement bon. Allons-y. Et Malachie est concret dans le fruit de la repentance. Parce qu'une repentance où dire « Ok, je reviens, puis en fait, je ne change rien à ma vie. Je continue exactement comme avant, ou comme les gens du monde autour de moi. » C'est se moquer de Dieu. Non, il parle du fruit de la repentance. Ici, il dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme. » La repentance amène à ne rien retenir pour nous et de tout donner pour Dieu, généreusement, en lien avec nos capacités, nos ressources et notre énergie. Il ne nous demande pas de donner plus que ce qu'on a. Jamais Dieu ne demande ça. C'est notre orgueil parfois qui veut donner plus pour montrer aux autres comment on est bien. Dieu ne demande jamais ça. Et Dieu promet l'ouverture des écluses des cieux, des bénédictions au-delà de toute mesure. Et j'ai été marqué par un commentaire que je vais vous dire maintenant, mais qui me marque. Enfin, on en parlera peut-être par la suite et vous me direz ce que vous pensez aussi. Dit ceci. Israël, sous l'Ancien Testament, cultivait la terre promise, semait et vivait de la moisson. Mais l'Église vit d'une autre sorte de semence et attend une autre sorte de moisson. Nous semons la parole de Dieu dans l'Évangile et nous attendons une moisson de conversion. Elle continue plus loin en disant « Vous êtes-vous jamais trouvé dans une Église où depuis des mois et des mois et des mois, il n'y a eu aucune conversion ?» Cela ressemble à un pays stérile où la moisson a été maudite. Quand le peuple de Dieu ne veut pas donner, et la manière de donner est large, hein, pour soutenir l'œuvre de Dieu, cela produit un effet très direct et pratique sur l'influence qu'il exerce. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Que vivons-nous ici, dans cette église? Et ma prière, c'est premièrement moi-même de me mettre devant Dieu, de prier, mais Seigneur, agis puissamment par ton esprit pour nous réveiller de cette léthargie qui nous tire en bas. Et que chacun, nous tirions pour regarder vers Christ et amener celui qui est à côté de nous, qui a besoin du Seigneur. Et arriver vers ce lien, c'est le dernier point qui est ici, qui nous pousse vers le Nouveau Testament. Et ça, c'est Malachie 3, verset 1, et ensuite les derniers versets, qui dit « Voici, j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient. » dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on est pour l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Et le livre de Malachie se termine avec ce texte, les trois derniers versets, donc soit 3, 22 à 24 ou 4, 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël les descriptions et les ordonnances. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères et des fils à leurs fils et les cœurs des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. C'est vrai que ce livre et tout l'Ancien Testament se terminent sur une note très négative. La dernière phrase est très forte, tout en ayant une espérance qui est là. Le Nouveau Testament se termine par une note très positive. Et c'est vraiment ça que je désire qu'on puisse vivre ensemble, ici. Jean-Baptiste est celui qui ouvre le chemin, c'est vrai. C'est l'Élie qui devait venir, comme on l'a entendu dans Matthieu 11 tout à l'heure. Le Seigneur, si vous regardez le chapitre 3, verset 1, le Seigneur qui entre dans le temple, c'est Jésus-Christ qui est entré dans le temple. Et il y a d'ailleurs fait un peu de ménage, vous vous souvenez? Jésus-Christ est ce messager de l'Alliance. Il est ce messager de l'Alliance. Il a expliqué l'Alliance à ses disciples le jour avant qu'il allait être arrêté et mis en croix. Dieu purifiera. Et quand Dieu purifie, c'est pour amener l'Église à être vibrante de vérité et d'amour pour lui. C'est ça la purification. Il y a un vrai résultat. Quand il dit « revenez à moi », puis ensuite il dit « venez apportez-vous », il dit « mais il y a un résultat, il y a quelque chose qui se passe ». Si c'est juste « vous êtes purifié puis rien ne se passe », ben il n'y a pas eu de purification. Purifier, c'est amener l'Église qui vit la repentance, le pardon, la foi et l'amour à manifester son amour, sa grâce et sa bienveillance pour sa gloire. À manifester l'amour, la grâce, la bienveillance de Dieu autour de nous pour la gloire de Dieu. Dieu purifie pour que nous le servions de tout notre cœur, de tout notre être. Et ainsi nous serons réellement heureux, parce que lorsque nous entrons dans les voies qu'il a préparées d'avance pour nous, nous sommes heureux. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais peut-être vous avez déjà vu dans votre vie, on est des fois dans des situations où ce n'est pas facile, mais on est heureux. Le monde nous dit, non, c'est quand tu es dans le bien-être, c'est là que tu seras heureux. Quand tu ne souffres pas. Il y a des gens qui ne souffrent pas, qui sont malheureux. Il y a des gens qui souffrent, qui sont heureux. Expliquez-moi. Alors quelle grâce, quelle joie de savoir que lorsque Dieu avertit, comme il le fait pour Malachie, et il le fait pour nous aujourd'hui, c'est pour la repentance et la bénédiction. Il ne le fait jamais juste pour dire « Oh, comme vous êtes mauvais !» Mais non. Il le fait pour te dire « Mais repends-toi ! Viens à l'Éternel !» Et il veut te bénir. Et quelle bénédiction, Malachie annonce la venue de Dieu lui-même, le messager de l'Alliance. Seulement, c'est vrai, il a fallu un peu de patience. 400 ans. En conclusion, Malachie, le dernier prophète, parle à un peuple que Dieu a choisi d'aimer. Mais son amour est mis en doute. Le respect est absent. L'alliance est méprisée. Si on s'arrêtait là, ça serait terrible. Mais on ne s'arrête pas là. Mais Dieu annonce un précurseur du messager de l'alliance qui vient purifier son temple, déverser sa bénédiction sur celui qui revient à l'Éternel. Le Nouveau Testament nous permet de comprendre que les chrétiens, l'Église, est un peuple que Dieu a choisi d'aimer. Et il annonce le retour glorieux de notre Seigneur. Alors, patientons en vivant fidèlement, sans compter dans la repentance réelle, une vie de repentance, pas un ticket de repentance. Une vie de repentance et de foi. C'est pas juste dire « Oh, j'ai tellement mauvais !» Je suis mauvais, c'est vrai, et je peux en pleurer, c'est vrai aussi. Mais si je m'arrête là, ce n'est pas l'Évangile. Christ est mort à la croix, il a pris ça sur lui pour qu'on soit libéré et qu'on puisse annoncer cette libération autour de nous. Que Dieu nous guide cette année 2021 à être capable de faire face à ces péchés. Alors, quand vous lisez Malachie, des fois, ça, voilà, il ne va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut voir qu'est-ce qu'il annonce, qu'est-ce qui arrive. Et l'accomplissement que Christ a fait et qui est une promesse pour nous aussi, afin d'avoir une réelle moisson dans l'Église, ici, à Neuchâtel, en 2021 et dans les années qui viennent. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, ce livre de Malachie est très riche, nous n'avons pu que toucher quelques aspects. Mais Seigneur, c'est vrai qu'il me pousse à simplement venir devant toi bien humblement, humilié même de voir notre état. Et en même temps, avec une grande espérance de savoir que tu es ce Dieu qui renouvelle, qui transforme, qui guide. Et je veux croire que l'Église que tu as placée ici, eh bien, peut réellement grandir, progresser et devenir un lieu où une pouponnière de nouveau-nés spirituels, où ta gloire resplendit et où les louanges montent à toi de nos cœurs reconnaissants. Où la gratitude est là et où nous n'avons pas de retenue pour te servir. Seigneur, je te prie pour les péchés qui sont présents et connus et qui ne sont pas repentis, pour les relations qui ne sont pas réglées. Seigneur, je te demande pardon et je te prie vraiment de briser cela. Nous avons besoin d'être transformés par toi, afin de pouvoir ensemble t'adorer, te louer, te bénir. Nous avons besoin de toi. Et merci. Parce que tu nous donnes ton esprit. Tu es présent toi-même, par ta grâce, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.